떠난 레저강 랭두 꿈이스 미스 비방두 메자미 Pour notre patrie, les forêts des Ibélines, les montagnes des Louviers, les fleuves des Poissons, tout cela est à nous. Les chuchotements des fleurs, les vagues du champ labouré, les ramages de la louillette, tout cela est à nous.
Vous êtes le premier étranger dans ce village, oui, dans ce village.
Jamais
d'étranger ici. C'est un petit village qui s'appelle Kundea. Nous allons ouvrir ici la filiale de l'école Tsaka belge, où les élèves de l'école de Kundea vont apprendre le français à la façon approfondie, on espère. Non, non. Ah, peut-être quelqu'un va avoir peur, oui. Mais on vous attend.
Comment ça va? Ça va bien?
Ça va bien.
Okay. Jeanne, le prof de français,
oui.
Et le prof d'anglais.
А у вас есть американские сигареты?
Нет, потому что я перестала курить.
Ça y est, bienvenue.
Arbey batın ürün pünget. Ирлючея хатыга турдун, анны гытынан сур күйдәк сүр бәтін, үрді гытынан қарасор қағыта бәтін, жаллақ сұргулақ, өрілек қатылек олақтының. Дом ине дом, дом ине дом.
Elle a improvisé ses souhaits, ses félicitations à l'occasion de notre visite. Et voilà, vous êtes venus de très loin pour aider à cette école et pour aider à ses enfants, à leur jeunesse de Kundea.
J'avais très envie de partir et de partir si loin. Il y a le froid, il y a les extrêmes, tu vois. D'abord, c'est très loin, 8000 km. C'est complètement inconnu. Personne en France, tu dis Yakouti, de quoi tu parles.
On cherchait à partir vers l'Est, Christine et moi. J'ai terminé mes études et Christine avait terminé un contrat de travail. Et on avait cherché dans différentes entreprises, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, des sociétés multinationales qui auraient pu nous envoyer là-bas. Et en fait, les contacts qu'on a eus, on n'a jamais pu partir là-bas parce que les gens nous disaient toujours « Mais qu'est-ce que vous voulez venir faire chez nous alors que tous les jeunes, ils veulent finalement venir en Europe ?»
Le français doit dominer. C'était, Suntar, c'était autrefois était la région de langue française, oui. Mm-hmm. Mais maintenant, à cause de pression de l'anglais, voilà, on a cessé un peu. Dans toutes les écoles, il y a 24 écoles ici. Dans toutes les écoles, on apprenait le français autrefois. Maintenant, cette école.
Ils apprennent le français, c'est traditionnel, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas envoyer tous les enfants en stage linguistique en France, même si pour tous les enfants, Paris reste vraiment une destination de rêve. Et alors ce qu'ils font, c'est qu'ils invitent tout frais payé un ou deux étrangers francophones natifs là-bas, et alors ils font le tour des écoles. Donc nous, on a été dans beaucoup d'écoles différentes, expliquer notre vie, montrer nos photos, enfin vraiment parler français, mais aussi de la culture française, de ce qu'on faisait en Belgique, de comment on vivait. Ça permet en fait que les enfants voyagent tous un petit peu plutôt que quelques-uns, pas beaucoup. Enfin.
Il va réciter la volubilité.
Et donc alors après on est tombé sur Jean-Claude par l'émission des Belges du bout du monde et de fil en aiguille Jean-Claude nous a dit « Ah mais chaque année ils cherchent des gens pour pouvoir assurer des cours de français dans les écoles et donc allez-y quoi » et donc on est parti comme ça.
Si monsieur, il est un ancien tractoriste de notre sophose, il a travaillé plus de 30 ans, on a donné le tracteur pour lui et il gagne maintenant avec ce tracteur sa vie et il habite dans le village d'Ali. Il a 70 ans. Et sa femme est ici. Quelle voilà sa femme. Voilà, elle a accouché 8 enfants. Mais maintenant, ce couple a 16 petits enfants. Merci.
Mais moi, ce qui m'a décidé, c'est, mais moi, je voulais changer de domaine parce que je travaille dans la communication. Donc, je voulais une expérience dans un pays, je veux dire non européen. Et bon, à l'origine, moi, j'étais plus branchée sur les pays arabes. Donc, mon rêve, c'était de partir au Maroc. Et j'ai eu une opportunité, donc j'ai quitté mon boulot pour partir là. Et en dernière minute, ça s'est annulé. Et je me suis dit, j'ai pas quitté mon boulot pour rien, je veux partir. Et donc, j'ai trouvé une annonce sur Internet pour partir en Yakoutie.
Bon, y a des choses qu'il faut recommencer. Hein. Il y a l'eau. On n'arrive pas à comprendre ce qu'elle fait autour du feu. Et oui, il y a encore autre chose, le chaman. Le chaman ne paraît pas effrayé par le feu.
Comment ? Ça se passe bien ? Ça se passe bien pour toi ?
Non, il y a des tas de merde, mais bon, il faut plutôt en rire parce que autrement, je crois que je ferais un meurtre, tu vois.
Mais c'est un bon moyen pour elle d'apprendre le français ?
Comment ?
C'est un bon moyen.
Écoute, bon, ça pourrait être, mais...
Un jour, la vieille Tal-Tal alla chercher de l'eau. Cela se passa en hiver.
La Yakoutie, ou République Saka, grande comme toute l'Europe, se situe au nord-est de la Sibérie, à cheval sur le cercle polaire. Là se trouve le pôle du froid de la planète, avec un record de 82 degrés sous zéro. Le permafrost atteint 1500 mètres de profondeur.
Tu es très fort. Mais oui, bien sûr. J'éclaire et je réchauffe.
La Yakoutie, pays des extrêmes, c'est aussi les goulags, dont les seules barrières étaient l'impénétrable taïga et dont on ne parle jamais. C'est aussi les diamants. On dit que cet immense pays recèle tout le tableau de Mendeleïev dans son sol. La Yakoutie, verrouillée par les tsars qui y envoyaient comploteurs et malfrats de tout poil, et ensuite totalement isolée par le régime communiste, s'ouvre très doucement au monde extérieur. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser des enseignants belges et français à partir là-bas pour enseigner la langue de Voltaire dans des conditions pour le moins spartiates? Et pourquoi, dans la lointaine Yakoutie, apprend-on le français dans un grand nombre d'écoles primaires et secondaires?
Donc, je m'appelle Alice Marteau. Moi, je suis une nomade. J'ai toujours besoin de bouger. J'arrive pas à rester longtemps dans un même lieu, tu vois. Donc j'ai toujours pas mal bougé. J'ai enseigné dans des endroits assez différents. Alors avant, moi, je rêvais des pays choux, justement.
Ah, je suis Pierre Bray, originaire de Néchin, et j'ai enseigné pendant 40 ans à Blandin, petite commune de près de Tournai. Et alors, je suis pensionné depuis l'an 2000. Et disons que j'ai eu l'opportunité, disons, de venir ici, et j'en ai profité. Disons, comme je connaissais un tout petit peu de russe, je dis peut-être que ça va me permettre d'étendre mes connaissances, mais en même temps, disons, j'ai découvert un pays que je ne soupçonnais pas, disons, dont je ne soupçonnais pas la beauté et l'immensité, disons.
Mais c'est vraiment un hasard
qui choisit la destination.
Exactement, le hasard.
Oui, c'est... Pas d'attrait pour
non,
le Grand Nord.
Non, non, aucun attrait spécial pour le Grand Nord. Mais j'étais chez ma fille au mois d'août et alors elle a vu sur Internet qu'on demandait des professeurs de français pour la LAC aussi. Ben, j'ai dit, réponds toujours. Et alors c'est comme ça, de fil en aiguille, que je me suis engagé pour venir ici. Au départ, disons, je savais que j'allais dans l'inconnu. Mais sans crainte, non, parce que j'avais déjà pas mal voyagé. Donc, l'inconnu ne me fait pas peur.
Aujourd'hui, nous avons la leçon de la culture nationale. Nous avons les invités, faisons connaissance.
Je voulais être dans le village. J'avais envie de vivre une expérience sibérienne, de découvrir ces gens dont j'ignorais tout. Et de découvrir le froid.
Il était une fois une petite fille, la plus jolie du village. Et tout le monde l'aimait. Elle portait sur sa tête un petit chaperon rouge. Un jour, sa maman lui a dit...
Et donc je suis partie tout de suite à Verkhoyansk. Pour moi, ça a été 3 semaines de... d'ensorcellement total. J'étais dans la fascination complète. Mais bon, tu vois le coucher de soleil que tu as vu hier, moi c'est mon grand bonheur, tu vois. Tous les jours je m'en lasse pas, tu vois. Les aubes ici au petit matin, maintenant c'est de plus en plus tôt malheureusement, mais et les couchers de soleil, mais c'est somptueux. Et alors à Verkhoyansk, c'est t'as des lumières. La nuit, le matin, le soir, c'est superbe. C'est
un
superbe.
Canard,
une mouette,
un corbeau,
sage,
intrépide,
perfide,
rusé,
brave.
Et c'est un problème, je veux dire, justement, pour les jeunes qui apprennent les langues, notamment, parce que finalement, au village, ils ont accès à rien du tout comme matériel sonore. Ils n'ont pas la TV, ils n'ont pas Internet. Donc, au niveau lecture de l'information, enfin d'un matériel autre que leur matériel pédagogique, ils n'ont rien, quoi. Donc, c'est vraiment handicapant pour eux.
Je m'appelle Nathalie, je suis élève à 10e classe. J'ai recherché ton cœur, si tu n'importes ailleurs, même si dans tes danses, notre danse est des heures. J'ai recherché ton âme, dans le froid, dans les flammes.
Et donc moi je donnais cours à des enfants de 10 à 17 ans, et leur niveau... Il y a des élèves qui sont très bons et il y a des élèves qui sont très mauvais. En fait, le but de Yakout, c'est d'aller étudier ailleurs qu'en Yakoutie, parce qu'implicitement, ils savent que l'université de Yakout est moins bonne qu'une université de Saint-Pétersbourg ou de Moscou. Donc le but, c'est d'obtenir une bourse pour partir. Et souvent, l'élément qui fait la différence, c'est la connaissance d'une langue étrangère. De dire on va avoir une bourse ou pas. Et ce qu'il y a, c'est que maintenant, comme tout le monde étudie l'anglais, la concurrence est devenue forte en anglais, et en français, il n'y a presque plus personne qui l'étudie. Donc les élèves qui parlent bien le français, ben, fatalement, d'office, ils vont avoir beaucoup plus facilement une bourse.
Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langues.
Il y a ce petit noyau dur qui, en effet, est encore très attaché à la culture, mais je pense que de plus en plus, ça va se perdre. L'anglais est en effet en train de pénétrer la Yakoutie comme il fait avec le reste du monde, quoi.
C'est tout.
Merci. C'était une chanson de
Céline Dion
s'appelle...
qui s'appelle Pour que tu m'aimes encore.
Céline Dion, c'est une quelqu'un de très connu ici.
Ah oui.
Seulement pour ceux qui étudient le français.
Ah non.
Pour tout le monde.
Pour tout le monde. Encore, ah, j'aime beaucoup de jouer de scène.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui.
La leçon est finie, ça va être la classe. Merci beaucoup.
Est-ce que c'était une expérience positive pour vous de travailler sur ces contes? C'était intéressant. C'était intéressant pour vous de travailler avec les enfants?
Il étudie en première année.
Oui. Il y a tout ce que vous voulez aux
Il y a aussi une volonté politique qu'un maximum de jeunes restent le plus longtemps possible dans le monde scolaire, parce que c'est des gens qui sont à ce moment-là à charge des parents et qui ne sont pas des demandeurs d'emploi. Donc la plupart des gens vont à l'université ou font des études supérieures, même si après, avec un diplôme, il y a un peu une dévaluation des diplômes à cause de ça, mais ces gens-là, par exemple, ont une formation universitaire et ne travailleront pas forcément après dans ce qu'ils ont fait. Mais ça permet que jusque 20-25 ans, ils soient...
Ouais. Bonsoir, chers spectateurs. Maintenant, à votre attention, la présentation du conte Le chien cherche un ami.
Chez les Saka, tous les enfants savent chanter, danser, réciter de longs extraits de l'Olonko, le récit épique de la nation Saka. Et ils ont aussi gardé un côté très soviétique dans leur expression artistique, à la fois rigide et solennelle, mais toujours très aboutie. Ici, les traces du communisme sont encore très présentes, apparemment parce que, tellement éloignés de Moscou, les Saka en ont moins souffert que les autres peuples de l'Union soviétique. Mais la plupart des Yakoutes regrettent cette époque, finalement plus humaine, que le capitalisme sauvage qui est en train de gagner tout le monde. Et cette nouvelle liberté ne leur sert pas à grand-chose. Mais aussi, on a parfois l'impression qu'ils ne sont pas au courant que Staline et le communisme sont morts. La différence entre Moscou et Yakoutsk est frappante. Autant Moscou devient une capitale opulente comme Paris ou Londres, autant à Yakoutsk, j'avais parfois l'impression de me retrouver dans l'ambiance pesante du secret de l'Espadon de Blake et Mortimer.
Nathalie, je suis élève de 8e classe et maintenant je voudrais vous parler en général un peu de notre école. Notre école s'appelle Saka Française de Kamagata. Bien sûr, ce n'est pas un grand bâtiment, mais je le trouve très joli. Il y a 145 élèves et 33 professeurs. Dans chaque classe, il fait 14 élèves et il y a des élèves de l'autre Loulous et village. Et notre école a un emblème. Nous habitons dans la République Saka, c'est pourquoi au fond il y a le drapeau du Yakouti. Nous apprenons la langue française, c'est pourquoi il y a le symbole de la France, le Tour Eiffel.
En Belgique, les enfants sont dans leur milieu, ils parlent le français à la maison, le français à l'école, et on n'apprend pas de langue étrangère. Tandis qu'ici, ils parlent Saka, et directement, en première année, on leur apprend le russe, déjà une langue étrangère. Je vois pas ça en Belgique, que on leur apprendrait, par exemple, en première année primaire, le grec, avec une écriture différente, une langue totalement différente, et c'est ce qui se passe ici. Et en plus, on leur apprend le français avec une autre écriture. Et je pense qu'ils assimilent très très bien les trois langues. Les trois écritures également.
Et notre école a une chose, pour moi, c'est la plus intéressante, que chaque année, le professeur étranger vient chez nous pour nous enseigner. Et cette année est arrivé Pierre Brahi, il est de la Belgique et de la ville Tournai.
Déjà, il y a 35 ans, on enseignait le français ici, en Sibérie.
Et comment le français est arrivé en Yakoutie?
Il y a longtemps. C'était la première langue étrangère qui est venue.
Pendant l'époque soviétique, l'étude du français a été privilégiée par rapport à l'étude d'autres langues. D'une part, pour des raisons idéologiques communistes, donc c'était que le français c'était la langue de la Révolution française, et que la Révolution française, dans l'idéologie soviétique, c'est le passage obligé. Aujourd'hui, de moins en moins de gens apprennent le français au profit de l'anglais, mais aussi dans cette région de la Sibérie, au profit du chinois ou du japonais. Quand on regarde une carte, on se rend compte que c'est très proche de chez eux. Et par rapport à ça, il faut aussi se rendre compte que nous sommes beaucoup plus proches de Moscou que eux ne sont de Moscou, en fait.
Il y avait beaucoup de... Bon, qui avait fait aussi des crimes.
Voilà.
Il y avait énormément d'exilés. Et il y avait aussi tout ce qui était enfin de l'aristocratie qui venait de... c'était pas enfin seulement des criminels de bas niveau. La Russie a eu toujours une fascination pour la France, pour la culture française. Et vice-versa, les Français aussi, ils avaient toujours une fascination pour la Russie. Et je crois que c'est surtout pour ça qu'on apprenait le français.
Et je pense que le but, c'est essayer de se rapprocher du monde. Ils se sentent un peu éloignés de tout. Et le fait qu'ils apprennent l'anglais et le français, c'est dans le but de, disons, d'avoir des rapports avec l'extérieur. Leur langue d'abord, Saka, qui n'est parlée qu'ici, en Yakoutie. C'est-à-dire qu'ils espèrent tous voyager un jour. Pour l'instant, ils n'ont pas la possibilité parce que les gens gagnent très peu.
C'était la première langue étudiée avant la Révolution. C'était peut-être la seule langue étrangère que les exilés russes ont commencé à étudier au gymnase de la Yakoutie au 19e siècle. Tout d'abord, c'était des aristocrates. Ils étaient exilés, ils étaient envoyés en Sibérie. Altan kınkınan
grand froid en hiver, ça se passe comment?
Écoute, c'est très difficile. Moi, j'en ai pas souffert du tout. Et tu as deux périodes. Tu as le pôle des moins 40. Où là, tout à coup, le froid, moi, j'ai eu l'impression que le froid me sautait au visage. C'est comme une petite bête. J'ai l'impression d'une petite hermine ou un petit putois qui me griffait, qui me mordait le nez. Et puis, alors, il y a le moins 50. Alors là, moins 50, tu es dans un autre univers. Hein. Tu ne songes plus à aller faire des balades. Hein. Tu ne songes plus à te promener. Tu ne fais plus de photos parce que ce n'est pas possible. Tu as trop mal aux mains. Enfin, moi, j'avais trop mal aux mains. Tu vas travailler, tu rentres chez toi. À Verkhoyansk, nous, on a eu moins 55 ici. Hein. À Verkhoyansk, il faisait moins 56, tu vois, donc pas tellement plus. Au moins, moins, c'est ça, oui. Ici, on dit même plus moins, tu vois, on dit 50, on dit 55, et tout le monde comprend qu'évidemment, c'est moins. Ils ferment l'école. Mais il faut dire qu'ici, l'école n'était pas très chaude. Hein. Les classes, ça allait, mais... dans le hall, dans la salle des professeurs, tu as un manteau. Hein, il fait vraiment. Alors, ce qui explique que les mots, mais souvent la grippe aussi. Hein. Et là, tu es fatigué et tu as très faim. Vraiment, tu dévores à moins 50, enfin, moins 53, moins 54. Là, c'est vraiment. Tu sens que tu es passé dans un autre monde. C'est plus pareil. Tu peux plus. Tu marches plus de la même manière. Tu vois,
Qu'est-ce qui se passe quand tu fais moins 60? Est-ce que la vie s'arrête?
En hiver?
Oui.
Non.
Mais tellement de travail. Les écoliers
vont à l'école. Ils ne vont pas à l'école. Les élèves des petites classes seulement.
Mais ils vont pas à l'école quand il fait quelle
température? 52.
Disons, il n'y a aucune voiture qui circule. Parce que quand une voiture sort, quitte le garage, le moteur ne peut plus être arrêté. Toutes les voitures sont au fond des garages et ne bougent pas. Si bien que dans les rues, tout le monde va à pied. On ne voit pas de voiture dans la journée, sauf de temps en temps un traîneau tiré par un cheval. Il ne me verrait pas à l'idée d'aller me promener dans les bois ou l'Alena quand il fait moins 50 degrés. Parce que disons que, imaginez que j'aille dans les bois, que je me perde, c'est la mort assurée.
Et on ne va pas chez les autres, non?
Ben non, on ne va pas beaucoup chez les autres, parce qu'il n'y a pas de contact, puisque les personnes ne bougent.
Le monde mentalité est très, très différent.
Ils ne montrent pas leurs sentiments.
Oui, je pense que c'est lié avec notre temps.
Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on rencontre des gens dans la rue à Yakoutsk, 7 ou 8 mois sur l'année, les gens sont derrière des écharpes, des gros chapeaux, des gros manteaux.
Les relations avec les gens, la population, disons, est difficile, parce que d'abord, ils parlent sakai, moi, je parle français. Et ensuite, les gens, entre eux, ils sont assez distants. Assez distants. Ils ont une distance qui n'existe pas chez nous, comme on est peut-être plus latin qu'eux. Par exemple, je vois rarement deux personnes se donner la main. Se faire la bise, ça, j'ai jamais vu.
En effet, au départ, tu dis, mon Dieu, comme ils sont chaleureux, hospitaliers, etc. Puis tu réalises que c'est parce que tu étais l'invité attendu. Donc, tout était préparé pour toi, on a fait la fête. Et puis après, tu pénètres pas chez les gens. Je ne suis rentrée que dans deux maisons. Elle m'a dit, tu rentres pas ici chez les gens, tu peux pas aller frapper parce que c'est une collègue que tu aimes bien, que tu connais bien, et faire un petit bonjour de 5 minutes. Non, tu ne fais pas ça. Il faut qu'on t'attende, qu'on t'ait invité, qu'on ait préparé, que tu sois reçu avec une belle table, tu vois, tout est... C'est assez conformiste et un peu étouffant. Oui, il y a ce côté. C'est bien possible qu'il y ait le régime soviétique là derrière.
Une fois que vous avez pénétré, je veux dire, l'espace intime, ils sont absolument charmants, ils feront tout pour vous, mais ils ne sont pas du genre à venir vers vous, quoi. Donc, une fois que vous faites partie des meubles, vous vivez votre vie, mais ils ne vont pas venir, quoi. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut se sentir isolé, quoi, je veux dire. Ça, c'est peut-être de la timidité, c'est... Il faut beaucoup, quoi, pour casser la glace, en effet.
Alors ici, je suis à Suntar, au bord de la Vilyusk, qui est le fleuve, le gigantesque fleuve Jevu.
et je vais à la rencontre des pêcheurs qui ont fait un trou dans la glace pour pêcher au filet. Il y a à peu près 60 cm de neige dans la forêt et une quarantaine sur l'eau du lac, du fleuve. Je pense qu'il y a à peu près 2 mètres de glace sous mes pieds. À peu près 25.
Pas tonne,
en fait, chaque jour, il recasse le.
Non. Si ils le font tous les jours, à ce moment, il y a moins de glace. Mais bon, oui. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait, et c'est pour ça que c'est...
Ah oui.
Donc, s'il ne le... Enfin, s'il vient par exemple demain, il aura 10-20 cm ou dans 2-3 jours.
Avant de partir en Yakoutie, j'étais un peu préoccupé par ce que j'allais manger et boire. Lait de jument fermenté, jus d'érelle, tripes de poulain, moelle de renne et abats en tout genre. Et finalement, tout ça s'est avéré délicieux et vraiment adapté au climat. Une préférence cependant pour la chair de ces grands poissons du fleuve Léna, qui, stockés à l'extérieur des maisons, gelés et raides comme des battes de baseball, attendent qu'on les découpe en longs copeaux avec une sorte de rabot pour vous les offrir crus avec une pincée de sel. Et un bémol pour les espèces d'apéricubes en foie de renne gelée, à manger de préférence avant qu'ils ne fondent.
Vous donnez les cours et puis le soir
vous... Oui, le soir, il faut traire les vaches. Même quand tu viens, parfois mon mari n'a pas de temps de traire, tu reviens de Yakoutsk à 11h et tu dois traire les vaches. Tu ne peux pas laisser tes laits.
Les vaches sont dans une étable qui est chauffée ou c'est la chaleur des animaux?
La chaleur des animaux chauffe.
Même quand il fait moins 50?
Oui, c'est toujours comme ça.
S'occuper de 3 vaches là-bas, c'est un travail à temps plein. Hein. Il faut aller traire les vaches à la main, il faut nettoyer en permanence, sinon ça gèle sur le sol et on ne sait plus l'enlever. Donc il faut être toujours là. Il faut préparer les vaches pour sortir, pour qu'elles aillent boire au fleuve. Il faut casser la glace du fleuve pour faire le trou pour que les vaches puissent boire. Donc c'est vraiment un gros travail pour si peu de résultats, en fait, finalement.
Et les vaches vont elles-mêmes boire et elles reviennent elles-mêmes. Elles sont très intelligentes. Nos vaches sont très intelligentes.
À Kepteni, il y a un premier lac où on ne prend pas la glace parce que, en fait, ce lac-là, en hiver, c'est pour les vaches. C'est-à-dire que tous les gens qui ont des vaches lâchent leurs vaches une fois par jour, elles vont sur le lac, donc on creuse des trous dans le lac, elles font sur le lac, et elles boivent là, l'eau, et puis elles reviennent à l'étable. Donc c'est-à-dire qu'en allant jusqu'au trou, elles se soulagent, je vais dire. Donc en été, quand tout fond, il y a tout qui tombe, donc l'eau du lac est quand même passablement dégueulasse, quoi. Donc ils vont à un lac plus loin où là il n'y a pas de vaches qui vont, et donc en fait ce qui se passe, c'est qu'ils prennent des couches de glace, quoi. C'est vraiment des grands, ils prennent enfin des couches comme ça de glace, et donc ça fait des grands blocs comme ça qu'après ils découpent en plus petits morceaux, et ça ils amènent dans les ménages, ils sont stockés dehors.
Quand tu as un prof qui a des vaches, par exemple, après les cours, il faut traire les vaches, faire le kéfir, faire la crème, il y a tout ça, tu vois. Et puis, il y a le petit veau, il faut s'en occuper. Il y a les mamelles de la vache qui font mal, il y a tout un travail.
Par exemple, les sovkhozes et les kolkhozes sont fermés, les bâtiments existent là vides. On a, à la fin du communisme, distribué le bétail entre les différentes personnes qui travaillaient dans les sovkhozes, qui ont construit de toutes petites étables pour mettre ce bétail, qui se retrouvent isolés alors qu'avant ils avaient une vie très sociale avec ils travaillaient, ils avaient des collègues et tout ça. ils avaient des week-ends, ils avaient des temps de pause, des temps de garde, des choses comme ça. Donc maintenant, ils se retrouvent tout seuls à faire ce travail-là. Et il y a juste les gens de la transition qui acceptent de faire ça. Donc ces gens qui étaient dans le village, à qui on a donné le bétail, bon, ben, ils sont restés parce qu'ils avaient une famille et tout ça. Mais les jeunes qui maintenant vivent là-dedans disent, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas avec ces trois vaches qu'on va pouvoir vivre et c'est pas ici, dans un petit village, qu'on a envie de vivre non plus. Et donc aussi, ces jeunes-là se retrouvent vraiment ou à aller en ville ou à ne rien faire et ne pas savoir que faire. Donc ça, c'est fort dur pour les gens de dire, mais nos villages sont en train de se vider de gens. Les gens les plus débrouillards partent en ville et donc restent dans les villages les gens les moins débrouillards.
Le mari s'occupe du poêle et de la glace. Il y a toutes les tâches ménagères du fait que tu n'as ni eau ni écoulement qui prennent un temps fou, tu vois. Un temps fou.
Qu'est-ce qu'on fait avec les eaux usées?
Alors, chez Sarguilana en tout cas, comme il y a des vaches, l'eau de la vaisselle, par exemple, tu la mets dans le seau des vaches. C'est de l'eau, il y a des détritus, etc. Donc tu n'emploies pas de détergent. Tu emploies du bicarbonate de soude pour dégraisser. Alors, on économise l'eau aussi. Parce que c'est le mari qui porte les blocs de glace, tu vois. Si tu ne peux pas te permettre de... Quand il y a des détergents, par exemple, quand le seau qui recueille l'eau, tu t'es lavé les mains, etc., les dents, ça va dans une autre fosse, tu vois. Donc il faut bien savoir, il faut pas se tromper. Mais donc tu prends, tu vides, après tu vas vider le seau, tu vois, constamment. Quand tu laves ton linge, c'est pareil, il faut faire attention, le linge ne peut jamais être parfaitement rincé parce que tu économises l'eau. Et puis tu vides, elle a une machine à laver. Donc dans la machine à laver, on attend le jour où on fait la lessive, qu'il y a assez de draps, de serviettes de toilette, etc. À Noël, par exemple, elle a fait la lessive, n'y était pas. Quatre femmes à la maison, hein, il y avait ses trois filles et Sarguilana. Une journée. Alors il y a le problème des ordures. Il y a un container qui est là, tu vois, donc les ordures, il y en a qui sont brûlées. Et puis, ben, ils commencent à avoir aussi du plastique et des boîtes de conserve. On ne sait pas quoi faire, nous, en France, avec nos ordures. Et ben eux non plus. Sarguilana me dit, je dis toujours au chef du village, écoute, il faut faire quelque chose. Alors, ils vont les brûler, ils ne les brûlent pas assez loin, mais ils sont pareils, même avec beaucoup moins d'ordures que nous, eh ben, ils ne savent pas trop quoi en faire. C'est un problème.
Nous n'avons pas attendu d'être invités à ce somptueux mariage pour nous rendre compte que les Yakoutes sont en train de s'occidentaliser à la vitesse de la lumière, même si tout est fait pour qu'ils gardent leur culture. On assiste ici à un processus accéléré de mondialisation chez un peuple qui était privé de contact avec le monde pendant des siècles. Et comme partout ailleurs, les jeunes ont tendance à délaisser leur propre culture au profit de celle que leur vendent les chaînes télévision satellites. Et ce n'est malheureusement pas le meilleur de l'Occident qui passe à la télé. Entre les nouvelles insipides filtrées par Moscou et la version yakoute de Star Academy, on trouve la même variété rap et techno façon MTV, et aussi une version sibérienne de La Roue de la Fortune, et quelques telenovelas brésiliennes dont tous les personnages sont doublés en yakoute par une seule voix.
Peu à peine, nous devenons comme chez vous, comme les Européens, on peut dire. Chaque famille a maintenant la télé, la vidéo, oui. On regarde, même nos enfants ont commencé à lire peu. Toujours, on regarde les télévisions. Et maintenant, même, il y a les familles qui ont les ordinateurs maintenant, mais pas d'Internet sans doute, mais il y en a. À l'école, il y a 7 ordinateurs maintenant.
Et vous pensez que c'est bien, la télé ?
La télé, non. Moi, je n'aime pas. Parce que ça prend beaucoup de temps chez nos enfants. Mmh. Autrefois, nos enfants lisaient beaucoup.
C'est ici ?
Пошла, как говорят, на огонь. Мон мари фе,
avec les canneberges fermentées. Il fait, ça s'appelle kvass.
Les canneberges, c'est quoi? C'est des érelles ça s'appelle canneberge.
C'est
le seul fruit qui pousse ici? C'est seulement des baies où il y a...
Il y a beaucoup de sortes. En plein été, nous ramassons les fruits et les fraises, par exemple. Les fraises, il y en a les framboises, il y en a les érelles bleues, et les groseilles noires, les groseilles rouges.
Et des pommes, des fruits.
Aujourd'hui, vous verrez... Hein?
Des pommes, non?
Les pommes, non. Pas de cerises, pas de pommes, d'ananas, non. Ça, on apporte. Ça, on apporte. De la Russie centrale, du Maroc même. De la Chine, du Kazakhstan, du Kyrgyzstan.
C'est Rosalia, une collègue de Yakoutsk, qui, quand elle est allée en France, c'est ça, a vu pour la première fois des arbres fruitiers, tu vois, elle n'avait jamais vu. Parce qu'ici, les fruits, c'est les baies, quoi.
Donc, tout se conserve simplement dehors.
Dehors, tout de suite, tu laisses tout d'abord dans la cave. Après, quand l'hiver vient, tu sors.
Mais
nous mettons tout.
La cave est fraîche. La cave, elle est dans le permafrost.
Et avec des glaces.
Des
blocs de glace.
Et les blocs de glace tiennent tout l'été.
Et tout l'été, nous buvons l'eau de glace. La viande de poulain, japonais, chaque année, achète chez nous, en Yakoutie. On dit ça contre le cancer. Nos hommes mangent cru. La viande crue. Et là, avec les graisses, ça, on dit c'est contre le cancer. Et les tripes du jument aussi. C'est très, très bon. C'est très délicieux, oui. Nous voilà, au printemps, naissent les poulains. Apparaissent, oui. Et après 4 mois de leur existence, après nous les tuons et nous mangeons.
Comme ça, c'est la cave, descend de la cave
permafrost. Oui, 3 mètres.
Et quelle température il fait en moyenne?
Là-bas, minus 20.
Moins 20.
Moins 20.
Oui. Toujours cette température.
Cette température toujours.
La glace est là.
Вот это вода будет. Это вода для... Это вода. До ноября пью. Ноябрь. Сам, да? Летом?
Летом, да.
Потом...
Это для лета?
Для лета. Лето, потом октябрь, ноябрь. Тоже.
Всегда минус 20 градусов.
Всегда здесь. Всегда вот так. Вот так.
Il faut chercher le poil 3 fois par jour. Le matin, en journée, et le soir, 2-3 fois il faut chercher. Il faut chauffer, et surveiller le poil comme un enfant. Comme tu as un enfant qui tète sa maman. Oui.
개고날 시렘에 근데는 숨죽에 여름이 우르단 울레네 칼란 그르게 주자금 그르게 주자금 근육된 달을 근두둑 달을 줄줄줄 줄줄줄 줄줄 줄줄줄 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 줄줄 줄줄줄 줄줄줄 줄줄줄
Il y avait des mots que cette professeure n'arrivait pas à exprimer en français de manière poétique et qui existent en un seul mot dans la langue yakoute, notamment par exemple la graisse sur l'intestin du cheval. Mais alors elle disait à Samuel, peux-tu m'aider à traduire ça? Mais c'est très difficile d'aller trouver un terme qui est chantant et qui représente la graisse sur l'intestin du cheval. Enfin. Et donc on était fort étonnés des termes que cette langue possède, sans doute parce que ce sont des éléments qui ont été fort utiles dans leur, peut-être leur alimentation, où ils avaient trouvé que ça avait des vertus. C'est un miracle que les Yakoutes et les traditions Yakoutes ont perduré dans un état communiste, et les gens ont vraiment mis beaucoup d'énergie pour qu'elle soit sauvegardée. Et donc par rapport à ça, les gens y font vraiment attention, les font vivre, beaucoup plus que nous ne devons pas nous battre pour notre langue. Donc ça, on l'a fort ressenti,
Et vraiment, tous les enfants savent danser, chanter. Il y a vraiment des cours, il y a vraiment beaucoup de temps qui est passé avec les enfants dans le cadre scolaire pour que perdurent toutes leurs traditions.
Alors, il y a des couplets, par exemple, nationalistes sur la Yakoutie qui sont... Alors qu'il y a une très grande passivité, ils sont absolument exploités par la Fédération russe. Alors qu'ils ont des moyens, c'est la République la plus riche. Ils ont les diamants, de la première qualité de diamant au monde, quatrième en quantité. Ils ont de l'or, ils ont du charbon, ils ont quantité de choses. Ils pourraient faire pression.
Les Yakoutis donnent beaucoup de richesses à la Russie. Mais après la perestroïka, seulement 20% on a commencé à donner au peuple yakout. Et on a senti ça tout de suite parce qu'on a commencé à construire les belles maisons, des belles immeubles, surtout à la capitale de la Yakoutie, à Yakoutsk. Mais dans la vie des gens simples au village reste à souhaiter. Très, très difficile survivre parce qu'en hiver, le climat est très dur. 50 degrés au-dessous, et puis le chauffage central n'existe pas dans les maisons, et puis les toilettes qui sont en dehors de la maison. C'est très, très difficile de survivre. Malgré tout, les gens sont sensibles à la culture, à la culture européenne, à la culture française.
Quand même quelque chose, tu vois, on commence à parler par exemple des élections, Poutine, tout à coup elle me dit, bon, parlons pas de politique, en baissant la voix, parlons pas de politique, on sait jamais s'il y a des micros, tu vois. Et très souvent, on m'a dit, fais attention ou faites attention à ce que vous dites. On y pense tout le temps.
La fin de l'époque soviétique, c'est vraiment dramatique pour ces gens-là, parce que l'État qui fournissait à ces gens-là en permanence les choses vitales, la farine, le sucre, les vêtements, les jouets pour les enfants, le pétrole, etc., ces gens-là, ils pouvaient par exemple revenir au centre de la Sibérie, enfin au centre de la Yakoutie à Yakoutsk en avion en payant 1 ou 2 dollars le ticket. Il y avait 3 avions par semaine. Eh bien aujourd'hui, il y a 1 avion par semaine. Le billet coûte 700 dollars, donc le prix qu'on le payerait ici. Ces gens doivent faire acheminer eux-mêmes à leurs frais toute une série de matières premières. Et donc ces villages sont vraiment en train de mourir.
Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло.
Le village est en train de mourir, ou ils partent, ou une des solutions. Ah, ils partent où, ça c'est le grand problème. Ils vont à Yakoutsk. Donc beaucoup de jeunes par exemple vont étudier à Yakoutsk et ne remontent pas dans leur village. Mais ça rend mal à Yakoutsk parce qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Il n'y a pas d'argent pour tout le monde, alors tu en as un petit peu, ils boivent, et souvent le drame, quoi.
Sous les soirs d'été, le jardin se tait. Au matin, la bruire est bien drôle.
Ils aspirent tous à connaître autre chose, à découvrir le monde en quelque sorte. Voyager en Europe, voir Paris, voir l'Amérique, etc. Pour eux, ce sont des rêves, disons, et vu les prix, la différence de niveau de vie, c'est un rêve presque irréalisable, individuellement.
Le vent dans tes yeux reflète.
On a réuni finalement tous les gens, tous les Belges qui étaient petits là-bas et qu'on connaissait ou qu'on connaissait par personne interposée, et en disant, ben voilà, nous on revient, on a envie de faire des choses, et finalement l'écho qu'on a reçu chez les autres c'était la même chose, en disant, nous aussi on est revenus, on avait envie de faire des choses, mais on ne savait pas très bien comment ni quoi. D'où finalement la volonté commune de faire une petite ASBL, les deux buts principaux seraient d'une part l'envoi de professeurs dans les écoles là-bas, et surtout dans l'école au village de Kepteni, et éventuellement un envoi peut-être d'argent ou en tout cas de matériel didactique pour ces écoles-là, quoi.
Et donc tous les professeurs ont décidé de créer une association, quoi. une association, donc l'association Sac à Belge, et qui a comme mission essentielle de recruter donc les gens pour les professeurs pour partir. On s'est donné d'autres missions comme mener des projets récolte de fonds pour aider l'école Sac à Belge notamment, donc à Capteni. Des projets aussi pour faciliter, je veux dire, l'envoi de personnes, parce que c'est vrai qu'on a pas mal de problèmes avec l'ambassade russe pour avoir les visas et tout ça, donc essayer de faciliter les départs et éventuellement essayer à terme d'être subventionné d'une manière ou d'une autre, quoi.
Dans la seconde partie de ce documentaire, nous irons à la découverte de la musique saka et voyageront aussi au-delà du cercle polaire chez les Evenks, là où les aurores boréales se laissent parfois glisser jusqu'au sol dans un bruit d'arc électrique, et là où les quelques villages de cette immensité survivent en autarcie, abandonnés à eux-mêmes depuis la chute du communisme. La liste des personnes à remercier est trop longue pour les citer tous, mais je remercie particulièrement Jean-Claude Wagner, qui fut un des pionniers de ces professeurs belges de Yakoutie, Tristan Allman, grâce à qui j'ai eu vent de toute cette histoire, Zlatina Rousseva, pour sa connaissance parfaite de la langue russe et sa connaissance très utile de la mentalité soviétique, Christine et Samuel Delcroix de l'ASBL Saka Belge, Muriel Eichen, Alice Marteau, Pierre Bray et surtout Isabella Borisova de la faculté de français de l'université d'Yakoutsk, ainsi que la très efficace Sargilana Nafailova. Avec l'aide du Fonds d'aide à la création radiophonique du ministère de la Culture de la Communauté Wallonie-Bruxelles. Je remercie aussi Marianne Poncelet de la Fondation internationale Yehudi Menuhin. Réalisation, prise de son, montage, mixage, Thierry Van Roy. Taptiach bin olorum istin yeyilere o yar gün sardan atini belahta biraz tapta yeyilere belahtan biraz kaptalini olağın istin yeyilere. На каком языке хотите?